C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Maintenant, on commence ce matin par la guerre entre Israël et le Hamas. Quelles sont les dernières nouvelles? D'abord, l'armée israélienne, dans un compte-rendu publié aujourd'hui, annonce que les forces terrestres ont tué des dizaines de combattants du Hamas lors d'affrontements de nuit. Des affrontements qui se sont déroulés dans des bâtiments, des tunnels, et, affirme Israël, ces militants du Hamas avaient tenté de les attaquer. Du côté de l'armée de l'air, on dit avoir identifié 600 cibles qui ont été bombardées au cours de la journée de dimanche. On sait que toute la fin de semaine, et là j'inclus vendredi, ça a été extrêmement violent comme attaque. On a perdu, entre autres, toute communication à l'extérieur et à l'intérieur de Gaza, donc communication Internet, téléphonique, il n'y a rien qui fonctionnait. Et l'armée israélienne dit, par exemple, avoir fait feu en direction d'une université parce qu'il y avait un missile anti-char qui était sur le point d'être lancé. Alors, premier constat qu'on peut faire ce matin, c'est évidemment la force de frappe israélienne qui s'abat sur Gaza, alors que de plus en plus de voix de la communauté internationale appellent à une forme de cessez-le-feu. On peut jouer avec les mots. Le Globe and Mail dit que la ministre Mélanie Joly va faire un discours à Toronto où elle va demander une certaine pause, un ralentissement dans ses opérations de bombardement. Les Américains qui reconnaissent à Israël le droit de se défendre, tout en insistant sur la nécessité de protéger les civils. Et vous comprendrez que le bilan est extrêmement lourd. Je regardais ce matin les chiffres, là, c'est par milliers, c'est absolument à chaque jour, ça augmente. Le Hamas qui affirme que plus de 8000 personnes, la plupart des civils, la moitié des enfants, ont été tués dans les bombardements israéliens depuis le début de la guerre. Selon Reporters sans frontières, les journalistes victimes de frappes au Liban le 13 octobre ont été ciblés. Alors, c'est un conflit qui touche tellement de façon collatérale, puis très même directement, des femmes, des enfants. Et on n'est pas juste dans les terroristes et dans les infrastructures. Et la réponse d'Israël est toujours évidemment la même. C'est notre façon de répliquer parce que le Hamas veut notre perte, veut notre disparition. C'est notre voisin et notre ennemi. Donc, l'offensive est sans compromis. Ça arrive aussi au moment où on apprend dans le New York Times ce matin les erreurs des services de renseignement israéliens qui ont mené au succès de l'opération du Hamas le 7 octobre qui a déclenché cette guerre. Si je résume, les services de renseignement avaient l'impression que depuis un an ou deux, le Hamas avait calmé le jeu, qu'ils étaient terrorisés à l'idée justement d'une réplique israélienne, qu'ils n'avaient pas l'intention de mener d'attaque de masse. Et que ce qu'on visait, c'était des petits attentats, des attaques limitées, mais rien de gros. Autrement dit, on avait même mis de côté certaines opérations de surveillance en disant « c'est pas rentable, on perd du temps, il se dit rien ». Et même si on écoute, parce qu'il faut tenir compte des techniques sophistiquées, modernes, du Shin Bet, du Mossad, les services de renseignement, ils avaient l'impression vraiment que ça donnait pas de résultat. Ils ont levé le pied. Pendant ce temps-là, le Hamas est en train de préparer une offensive sans précédent, c'est-à-dire de l'entraînement, bien sûr, des commandos formés, une connaissance du terrain, des différents kibbutz qui ont été attaqués. Et ils ont passé ça sous le nez des services de renseignement israéliens. Ils ont été capables de neutraliser une partie des équipements de surveillance. Et on sait que le premier ministre Netanyahou a dû s'excuser en fin de semaine après avoir comme blâmé les services de renseignement, puis après ça, il a reculé. Et d'ailleurs, il y a quand même des gens de l'armée, entre autres, qui avaient averti le premier ministre israélien que sa politique de confrontation, d'affrontement, créait une tension inutile et à risque pour Israël. Alors, ce sont les dernières nouvelles ce matin. Jean-François Lépine sera avec nous aussi pour nous faire son analyse. Maintenant, négo dans le secteur public. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a présenté hier la nouvelle proposition du gouvernement. Essentiellement, c'est une augmentation, dit-elle, qui fait en sorte qu'on se retrouve avec 1 milliard de plus sur la table, c'est au total 8 milliards de dollars. Et Québec dit que son offre passe de 13 à presque 15 %. Parce qu'il y a l'augmentation pour tout le monde. Il y a un pourcentage qui est réservé pour des gens, par exemple, qui vont travailler le soir, la nuit. On pense évidemment au réseau de la santé. Et que il y a une première augmentation lors de la signature, il y a un boni là, qui est prévu, mais aussi une augmentation plus forte. La réaction syndicale a été ultra rapide. C'est ridicule. Et tant qu'on n'a pas une offre qui tient compte de l'inflation, il n'y aura pas d'entente. Donc, la grève qui est prévue pour le 6 novembre aura lieu. Puis c'est la même chose pour ce qui est de la FIC. Je vais vous donner un exemple, parce qu'on sait que le gouvernement marche beaucoup avec les primes. Et vous allez me dire, oui, mais c'est normal. Je comprends, mais c'est une inhalothérapeute qui travaille depuis 30 ans de nuit. Elle dit, j'ai des primes parce que je travaille la nuit, j'ai des primes parce que je travaille la fin de semaine, j'ai donc une bonification de mon salaire aux 2 semaines. Mais ces montants de plus sont pas calculés pour ma retraite. Donc, à part de faire de l'argent sur le coup, c'est pas dans la planification de retraite ou dans mon montant qui est prévu des sommes qui s'ajoutent. Je vous dirais, c'est à peu près partout comme ça. Vous avez beau faire du temps supplémentaire, on n'en tient pas compte quand vous prenez votre retraite. Et là, on sait que le gouvernement marche beaucoup avec les primes qui sont prolongées, un montant forfaitaire, mais pour des gens qui ont une longue carrière dans le réseau, c'est sûr que c'est un élément de réflexion qui se dit, est-ce que ça vaut la peine encore de faire ça? Si je résume, premièrement, là, j'écoutais les deux camps hier, là. Il n'y a rien qui amène quelqu'un à vouloir travailler dans le secteur public de ce temps-là. Sérieusement, là, avez-vous le goût de travailler dans une école, dans un hôpital? Avez-vous le goût, si vous entendez, là, comment sont décrites les conditions de travail, vous dites, ça m'intéresse pas, je vais aller travailler ailleurs. Et on veut ajouter de l'aide à l'école, on peut pas dire que le message pour le recrutement va donner beaucoup d'effet. Je suis conscient que c'est une négo, là, puis qu'on se relance, mais l'objectif de recruter du monde peut pas dire là, qu'il est atteint, puis qu'on va être capable de combler des besoins. Parce que c'est beau augmenter les salaires, mais quand vous parlez à la plupart des gens, c'est aussi le manque de ressources. Que ce soit la présence d'adultes, de spécialistes, dans les salles de cours, à l'école, pour aider la prof pour qui ça déborde, avec un paquet d'enfants qui ont des plans, des cheminements à suivre, tu sais, ça devient lourd. Et c'est vrai aussi pour ce qui est du débordement dans le réseau de la santé. Maintenant, moyen de pression, oui. Puis on a vu, là, c'est 10h30, 11h, là, puis l'enjeu, c'est le transport scolaire qui est pas clair encore pour tout le monde. Mais il y aura pas de service de garde. Ça sera pas la fin du monde, mais il y a une cadence qui va se prendre, tout ça avec comme date butoir, probablement la période de Noël. Les deux parties veulent régler, là, c'est ce qu'ils disent. Mais jusqu'à quel point on met de l'argent de plus sur la table, puis jusqu'à quel point on est aussi capable d'aller chercher des outils de gestion qui vont permettre d'être plus souples, d'être moins dans le béton, souvent, comme c'est le cas. T'sais, c'est un peu de rigidité là, de part et d'autre. Là. Puis j'essaie là, de le prendre toujours du point de vue du payeur de taxes puis du bénéficiaire de services. Il y a de la rigidité dans les organisations patronales puis il y a de la rigidité dans le monde syndical, des vieilles façons de faire, des vieilles approches. Mais il y a en même temps, je pense que ça c'est vrai, un niveau d'écœurantite important de la part des gens de la base de la première ligne. Et aussi, je vous le disais, le gouvernement aime beaucoup les primes. Là, il semble que le premier ministre et le ministre du Travail, Jean Boulay, vont annoncer aujourd'hui un plan pour former de 4 000 à 5 000 travailleurs dans le domaine de la construction d'ici l'été prochain. Alors, c'est une formation accélérée. On vous paye 25$ de l'heure en moyenne. Vous avez droit également à des primes, des bourses à la diplomation qui peuvent aller de 9 000 à 15 000 $ pour les apprentis qui vont commencer au mois de novembre, au mois de décembre et au mois de janvier. Et là, il y a des disons des métiers de la construction qui sont particulièrement visés. Là où on manque de personnel, on peut penser par exemple, aux charpentiers menuisiers, opérateurs de pelles, opérateurs d'équipements lourds, des ferblantiers, des frigoristes. Et ces gens-là ont jusqu'au 15 décembre pour s'inscrire et commencer leur formation en janvier. Donc, c'est à la vapeur, un peu comme on a fait avec les préposés aux bénéficiaires. Mais là, c'est pour l'industrie de la construction parce qu'il y a une pénurie et ça retarde des travaux d'infrastructures qui sont importants. Ce matin, un sondage de l'UPA, publié dans la presse, au sujet de l'effet des pluies du mois de juillet, 60%, nous révèle le sondage, 60% des superficies maraîchères du Québec ont été endommagées, ce qui représente 42% de pertes. Des agriculteurs, des producteurs là, qui connaissent ça, qui sont dans le domaine depuis des années, disent n'avoir jamais vu un tel gâchis au niveau de la production. 5000 hectares de perdus. Et là, évidemment, c'est la recherche d'une forme de compensation de la part du gouvernement. Quand vous regardez tout ça, les dommages sont élevés, notamment pour les producteurs de légumes de racines. 64% des superficies qui ont été affectées par l'excès d'eau. Les pertes aux champs sont estimées à 46%. Vous avez d'autres types de production également où ça, on se retrouve, par exemple, avec des fruits plus petits qui se conservent moins bien, moins longtemps, et donc qui deviennent rapidement des pertes. Et là, les producteurs disent il faut obtenir de l'aide. Du côté des fraises et des framboises, 73% des superficies ont été affectées. C'est 44% de pertes. Puis là, on veut se préparer pour, évidemment, la prochaine année, puis aussi à long terme, pour ce qui est des changements climatiques. Puis d'ailleurs, quand vous regardez ces nouvelles économiques, je regardais la restauration. Puis je sais qu'il y a un remboursement qui doit se faire pour les restaurateurs qui ont eu une aide gouvernementale. Ils ont jusqu'au mois de janvier. Puis quand vous regardez tout le détail de ça, ben on le sait que pour les restaurateurs, ce sont des enjeux financiers importants. D'abord, ils payent plus cher la bouffe. La main-d'œuvre coûte plus cher, j'ai pas besoin de vous le répéter. Mais là, ce que l'on sait, c'est que avant le 18 janvier, si vous êtes bénéficiaire de l'aide gouvernementale de 60 000 $, les entreprises doivent rembourser le fédéral 40 000. Il faut sortir 40 000, puis après ça, ben, on efface le 20 000. Sinon, vous avez 3 ans pour rembourser le 60 000. Fait que ça met une pression. Et j'entends beaucoup de restaurateurs dire qu'ils ont décidé de fermer leurs portes. Il y en a qui le font pour toutes sortes de raisons personnelles. Là, ils veulent plus travailler les fins de semaine. C'est tellement accaparant, le monde de la restauration. Mais probablement que pour beaucoup d'entre eux, il y a un enjeu aussi de remboursement. Puis faites le tour. Moi, j'ai fait l'exercice un peu. Es-tu au courant que tel restaurant est fermé depuis 2 semaines? Es-tu au courant qu'il y a un autre qui a fermé en septembre? Es-tu au courant que... Et la hausse des prix amène aussi des clients qui y vont un peu moins souvent, qui veulent dépenser un peu moins, parce que les prix sont élevés. Et on le voit autant dans certains types de restos, disons, où les cartes sont plus, je dirais, importantes, que dans les restaurants fréquentés par des familles, donc des restaurants de gastronomie. Puis il y a même un chef qui m'a écrit, il ne veut pas être nommé, qui dit « Moi, j'ai décidé de réduire mon offre. Il y a moins de plats disponibles, les quantités sont un peu plus petites, sinon je suis obligé de charger un prix trop élevé. » Et puis, il y a même les bonbons d'Halloween qui font l'objet de ce qu'on appelle la réduflation, c'est-à-dire qu'il y en a moins dans le sac que d'habitude. Et il y a Sylvain Charlebois qui nous en parle dans un papier publié par la presse. Tristan Péloquin, son titre est assez révélateur, 5 fois plus d'emballage que de friandises. C'est la même affaire. Le cacao coûte cher, le sucre coûte cher. Et là, par exemple, on se rend compte que le 25 $ ou le 40 $ de budget qu'on a, par exemple, pour les bonbons, ben il y en a pas mal moins. Puis pour remplir la citrouille, ça va en prendre des sacs parce que cette année, c'est particulièrement frappant. Charlebois donne des exemples de bonbons qui sont extrêmement connus. Reese, qui est maintenant proposé en format de bouchée. Ça a l'air que c'est dans le minuscule. Les Rockets, même affaire. Dans le cas de certains sacs de M&M d'Halloween, il n'y a que 2 unités. Vous allez me dire, ouais, mais là, ce sont des bonbons, c'est pas la fin du monde. Je comprends, mais on paye pareil. Tu sais, c'est pas parce qu'il y en a moins, puis tu dis, c'est pas un produit de base essentielle, mais ça montre à quel point la facture est refilée. Puis là, on a des choix à faire. On est-tu obligé d'en acheter autant et d'en donner autant? Probablement pas. Mais c'est un autre exemple de ça. Rapidement, quelques nouvelles. D'abord, la politique. On a vu le Conseil national du Parti québécois en fin de semaine. Et là, c'est la réponse ou critique du budget de la 1. Alors, Paul Saint-Pierre Plamondon dit, moi, je suis pas inquiet. Contrairement à ce que dit François Legault, il dit certains partis d'opposition, il n'y en aura pas de sacrifice financier à un point tel que le pays sera tellement porteur que les gens iront faire du bénévolat. Permettrait d'avoir un certain doute, puis un doute sur toute cette opération. Parce qu'un budget de l'an 1 d'un pays à venir dans les prochaines années, c'est aussi fiable qu'une prévision météo pour dans 2 semaines. Il y a tellement d'impondérables qu'on peut bien spéculer. Puis là, si j'écoute Paul Saint-Pierre Plamondon, ça sera le grand soir. Il dit que c'est comme faire son sapin de Noël, puis que c'est l'euphorie. Bon, peut-être, là. Mais disons qu'on est dans l'espoir. Puis c'est correct, là. Il défend avec conviction son projet, mais il faut rester calme. Il y a aussi Québec solidaire. Les 3 candidates qui veulent remplacer Manon Massé ont des discours assez critiques à l'endroit du parti. Et, tu sais, d'abord, est-ce qu'on est souverainiste ou pas? Puis est-ce qu'on peut accepter que la moitié des membres de Québec solidaire soient pas souverainistes? On prétend être pour un pays. Ça, c'est toujours le visage caché, obscur de Québec solidaire. Oui, oui, nous sommes souverainistes, mais pas tant que ça. Deuxièmement, le discours fait peur. Le discours devient incompréhensible pour bien des gens. Et je sais pas qui a dit ça, mais une des meilleures lignes que j'ai entendues, puis je vais finir là-dessus, c'est une des candidates qui a dit, je pense que c'est Mme Labrie, quand on fait une activité de Québec solidaire, puis c'est plein de profs, des profs de philo, des profs d'université, puis qu'il n'y a pas de travailleurs dans la salle, alors qu'on est supposé représenter des travailleurs, disons qu'il y a peut-être un message qu'on a échappé en cours de route et qu'on s'est éloigné de ceux qu'on prétend représenter.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Dépôt hier d'une nouvelle offre aux syndicats du secteur public par la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, aussitôt déposée, aussitôt rejetée. Et d'ailleurs, les qualificatifs étaient nombreux. Vous avez entendu notre collègue tantôt, Jonathan Trudeau. La présidente du Conseil du Trésor est avec nous. Maître Lebel, bonjour.
Bonjour.
Se faire dire non, c'est une chose, mais visiblement, le gouvernement n'a pas apprécié le ton des syndicats.
Ben, se faire dire non, surtout aussi rapidement, parce qu'un dépôt, ça se limite pas à 2 lignes. Habituellement, c'est extrêmement complexe. Il y a, dans ce dépôt gouvernemental-là, il y en a pour tous les secteurs. Il y a 50 tables de négociation. On va comprendre que le dépôt est à géométrie variable, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont pertinents pour certains, moins pertinents pour d'autres. On le comprend très bien. Alors, moi, ma surprise d'hier, c'est la véhémence avec laquelle on a si rapidement mis de côté un dépôt qui est probablement pas ce qui va se terminer, mais qui est quand même un pas très sérieux dans la direction des syndicats. Présentement, vous savez, moi, je peux pas occulter le fait, et je séparerai pas l'enveloppe gouvernementale en deux, là, parce que c'est un tout, un dépôt, et autant dans les mesures sectorielles que dans la table centrale, il y a de l'argent pour les gens de la fonction publique, les employés de l'État là-dedans. Fait que c'est important de dire que c'est 14,8%. Et on parlait d'inflation, là. Je pense que je veux déconstruire un chiffre, si vous me permettez, Paul, ce matin. On parle de 17-18% d'inflation. C'est pas le cas, présentement. Et ce qu'on sait, là, c'est la tendance se maintient selon les prédictions qui devraient se confirmer dans la mise à jour économique de mon collègue. On va atterrir en bas de 13% pour la période 23-28. Donc, il faut quand même, je suis d'accord pour qu'on décrit ce qui est là, mais il faut le décrier avec les bonnes informations.
OK, mais 2 choses. Si je résume, la nouvelle proposition par rapport aux demandes syndicales, c'est un écart d'à peu près 5 %.
Bien, si je fais la moyenne des demandes syndicales, parce qu'ils sont pas tous au même endroit, nous, la moyenne, on l'établit à 21, disons-le comme ça. Fait que là, on est à 14,8. Disons qu'on fait un chiffron 15, okay. 6, autour okay. de 6.
Vous dites, c'est pas la dernière offre. Ben, ça veut dire que vous avez encore du jeu.
Non, ça veut dire qu'il faut discuter. Parce que moi, je pourrais jamais dire qu'un dépôt patronal est final. Il y a trop de nuances. À l'intérieur de ce dépôt-là, je vais vous donner un exemple. On me dit qu'on occulte totalement le 1,5% qui est 1 000 $. Je comprends qu'il est forfaitaire. On peut dire que c'est du forfaitaire. Mais 1 000 $ là, ça vaut de plus de 1 milliard pour le trésor public, si je peux dire comme ça. Et c'est quand même de l'argent de la poche des syndiqués. Maintenant, il va finir où, ce 1,5%-là? Peut-être qu'à la fin de la conversation, il va être retiré avec le consentement de tout le monde et appliqué ailleurs. C'est pour ça que je peux pas dire. C'est pas un contrat d'adhésion, ce que j'ai déposé.
Mais je donne un exemple très concret. Je ne sais pas à quoi va ressembler l'inflation dans 2 ans. On peut spéculer, là, puis on peut penser que ça va être ça, puis bon. Êtes-vous prête, par exemple, de dire pour la première année, c'est tant, puis les autres années, en fonction de l'inflation, on va ajuster, on va trouver une formule commune et ça va déterminer le pourcentage d'augmentation, si c'est ça l'objectif, l'inflation.
Bien, vous allez comprendre que je négocierai pas ce matin avec vous, mais ce que je suis prête à faire, c'est d'avoir ces discussions-là à la table de négociation. Et je l'ai toujours dit, moi, j'avance, je fais des propositions et je fais des mises au jeu. Et c'est ça, une négociation. Mais présentement, Paul, tout ce que je reçois, c'est non, non. Non. Et c'est pas la négociation, c'est pas une vente aux enchères où le gouvernement va déposer des offres jusqu'à temps que quelqu'un me dise oui. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et présentement, depuis le début de cette négociation-là, j'ai jamais eu de contre-proposition formelle, écrite et détaillée des syndicats. J'entends, je vais vous donner un autre exemple. Il faut faire attention parce que présentement, j'entends tout. J'entends dans les arguments contre une chose et son contraire. À titre d'exemple, on me demande de travailler sur la précarité des emplois. On me demande, dans le milieu des enseignants, de baisser les ratios. Réponse à laquelle je dis, je peux pas faire ça présentement, j'ai pas d'enseignants. Parce que si je baisse les ratios, c'est une hausse d'enseignants. Mais juste pour donner un exemple, on me demande de baisser les ratios. Et d'un autre côté, j'ai Mme Picard qui dit, les aides à la classe, qui sont les éducatrices en service de garde scolaire, ben, ça donne pas plus d'argent dans les poches de tout le monde. Mais c'est une réponse, ça, au soutien à la classe. Et je comprends pas sa position. Elle a ses aides à la classe dans son syndicat, elle en a. Et ces personnes-là veulent moins de précarité, veulent qu'on augmente leurs horaires. Parce que ce que ça fait pour elles, c'est qu'au lieu de travailler le matin puis le soir, je vais les faire travailler toute la journée. Donc, au bout du compte, c'est plus d'argent et elles n'ont plus d'horaires brisés. C'est sûr que c'est pas de l'argent pur sur le chèque de paye, mais quand on me demande de travailler sur la charge de travail, sur la prévisibilité des horaires, c'est de l'argent pour le trésor public, mais en même temps, c'est des meilleures conditions de travail.
Ce que vous me dites ce matin, c'est que je donne des outils ou je donne de l'aide à des enseignants qui sont débordés, mais c'est pas directement sur leur chèque de paye.
Mais ça fait partie aussi des demandes syndicales. C'est une autre solution qu'ils me proposent, mais l'objectif est le même. Mais il faut penser que ça, c'est de l'argent aussi qui est investi dans notre système.
Mais moi, ce que je veux savoir,
qui va leur
aussi
donner de l'air et qui va aider à rehausser la valorisation de la profession.
Jusqu'où vous êtes prête à aller? Je comprends, on négocie pas en ongles.
Mais oui, c'est sûr.
Mais moi, j'ai des employés qui m'écrivent, là, qui depuis la pandémie ont eu toutes sortes de primes, là, qui sont reconduites.
Tout à fait.
Primes de fin de semaine, de nuit, temps supplémentaire et tout ça. Mm-hmm. Et là, qui se disent, là, toutes ces années-là, là, où je vais avoir fait quand même plus d'argent, quand je vais arriver à la retraite, c'est pas comptabilisé. Êtes-vous prête à tenir compte, par exemple, de ces revenus additionnels, les 3 meilleures ou dernières années, ou les 3 meilleures, pour établir leur retraite?
Bien, vous voyez, Paul, sans commenter cette avenue-là, c'est au moins une base de discussion, c'est au moins une contre-proposition. Mais là, je l'ai dans les commentaires que vous avez. J'en reçois, moi aussi, des textos là, sur mes réseaux sociaux, en privé, où on me fait ce genre de suggestions-là. Mais j'en reçois 1000 sortes différentes. Moi, ce que je veux, c'est qu'on m'en fasse une contre-offre, qu'on pourra en discuter. Je ne sais pas où on va atterrir, mais moi, mon objectif, je vais vous donner un exemple. Mon objectif là, dans la mise sur place de primes, c'est que, de façon, présentement, au moment où on se parle, dans le secteur de la santé, on semble oublier sur le terrain que c'est 24/7, OK? Et j'ai beaucoup de personnel, j'ai une abondance de personnel la semaine, j'en manque les fins de semaine et dans les quarts de nuit et de soir. Là, moi, ce que je pousse sur la table, c'est des solutions volontaires, parce qu'il circule aussi que je veux forcer les gens à faire des choses. Non. Les déplacements à des kilomètres, travailler dans des cadres défavorables, ce n'est pas des solutions qui vont être forcées, c'est des solutions volontaires. Ça percole pas, mais je le dis, il y a personne qui va être forcé à travailler de nuit ou à se déplacer à plus de 70 kilomètres.
Mais si vous voulez me faire travailler de nuit, vous allez me payer plus que si je travaille de jour.
Moi, je mets des solutions pour être capable de convaincre. Mais si c'est ce que vous me dites là, c'est une discussion ça, pour être capable de convaincre. Moi, au final, je veux que l'argent que j'investisse me donne plus de monde la fin de semaine, le soir puis la nuit. C'est ça mon objectif. Il est pas caché, il est avoué. C'est sûr que la solution que je mets sur la table, c'est la mienne. Mais si on a une contre-solution, mais là ce qu'on me propose comme solution, c'est, je reprendrai pas l'expression du premier ministre, mais c'est du mur à mur. Mais moi, si je donne la même chose à tout le monde, comment je convainc l'infirmière de jour à venir travailler les fins de semaine? Mais c'est ça que je cherche, moi, Paul. Et c'est cette discussion-là
que
je veux
avoir. Parce que si je suis une infirmière de jour, à ma retraite, je vais avoir la même chose que l'infirmière de nuit.
Ben oui, donc c'est quoi qui...
Sauf le montant d'argent que j'aurais gagné entre-temps.
Moi, si je suis une infirmière de jour, qu'est-ce qui me convainc d'aller faire le quart de nuit qui est probablement moins agréable, je le conçois. Alors, il faut que je trouve, moi, des solutions. Alors, c'est sûr que si on me dit, donne la même augmentation, il y a des augmentations pour tout le monde, là. Mais elles sont différenciées et c'est sûr que je mets plus d'argent sur la table pour les quarts défavorables. On parle beaucoup des infirmières, mais prenez le même... façon de réfléchir pour l'ensemble des enjeux. Mais comment je convainc cette infirmière-là, moi, d'aller travailler de soir, de nuit, puis les fins de semaine, si je lui donne la même chose pour rester de jour? Mais moi, j'ai une responsabilité, Paul, à m'assurer que ces corps-là sont couverts. Et vous savez, je manque pas d'infirmières au Québec en nombre absolu. Je manque d'infirmières disposées à faire du temps plein. Je manque d'infirmières disposées à travailler de soir, de nuit et les fins de semaine. Et je ne veux pas les forcer à le faire, je veux les convaincre de le faire. Et c'est ça que je pousse comme solution. Mais il faut qu'on m'aide à trouver ces solutions-là parce que c'est pas vrai que c'est l'horreur, c'est le Vietnam partout.
Non, mais
faut redonner ces lettres de noblesse, mais je comprends qu'il y a des enjeux, mais je veux trouver des solutions.
Une jeune infirmière qui vous écoute ce matin, oui. Ou un jeune prof en devenir là, oui. Qui vous écoute ce matin, là, la dernière place qu'il veut travailler, là, c'est pour le gouvernement.
Ben, c'est difficile parce que
c'est pas intéressant. Là. Moi, j'écoute le discours syndical.
Oui. Faut le changer là, un peu, ce discours-là, des deux côtés de la table.
C'est parce que ce que j'entends, là, c'est que les soins sont à la baisse, que les classes débordent, que j'ai pas de soutien, que les enfants... L'image des services publics... est terrible. Quelqu'un qui se dit, moi, est-ce que je veux vraiment aller enseigner? Je veux me ramasser dans une école, je vais écouter TVA, puis je vais voir des profs se faire battre. Ça me tente pas tellement.
Il faut que aussi les syndicats m'aident à les aider et vice-versa. C'est-à-dire qu'on faut changer la roue. Présentement, les syndicats me poussent des mesures où, au lendemain de la signature, il faut que j'ajoute des profs et des infirmières. Je peux pas le faire à court terme, je l'ai déjà dit. La baisse des ratios à titre d'exemple dans les classes ou les ratios dans le domaine médical. Demain matin, je signe. Paul, demain matin, j'ai des griefs parce que je suis pas capable de remplir mon engagement. Je suis transparente. Maintenant, il faut partir la roue autrement. Mais aussi, un débat qui blesse en enseignement. Pourquoi ce sont les jeunes profs qui se retrouvent dans la grande majorité des cas, avec les classes les plus difficiles? Parce qu'ils choisissent en dernier, parce qu'on n'est pas capable. Donc, j'essaie de trouver une façon. Comment je peux faire l'attribution des classes plus rapidement au mois de mai? Comment je peux éviter qu'il y ait une découverture à la veille de la rentrée scolaire? Pourquoi je suis pas capable comme gouvernement,
mais
comme employeur?
Mais ce que je comprends, c'est qu'on n'a pas avancé d'un pouce là-dessus.
Ben, c'est parce qu'ils veulent pas en parler avec moi. C'est des acquis syndicaux de longue date où je suis pas capable de discuter de l'attribution des classes, même sur une base volontaire avec les enseignants. Et ça, ça en est une grosse partie. Demain matin, là, on s'entend, si je change pas la structure d'attribution des postes, même si je double les salaires, les jeunes vont toujours, au lendemain, leur quotidien, là, dans la classe ne sera pas modifié. Puis quand j'entends Magali me dire, ben là, moi, là, les enjeux d'aide à la classe, ça m'intéresse pas parce que ça met pas d'argent. Je m'excuse, ça intéresse les enseignants. Elle a pas d'enseignants, Magali. Je comprends qu'elle dise ça, mais elle a des soutiens à la classe qui vont profiter d'horaires non précaires. Fait que je la comprends pas quand elle me dit ça, parce que d'un autre côté, quand on me parle aux tables de négociation, puis quand ses membres me parlent, ils me parlent de leur quotidien. Fait qu'il faut être conséquent aussi avec ce qu'on a besoin de faire.
Mais deux choses que mon collègue McSween soulevait. Quand les policiers de la SQ disent non à 21% d'augmentation sur 5 ans, moi je travaille comme prof ou ailleurs dans le réseau, dit, hey, la police a dit non, pas vrai que m'a dit oui en bas de ça. Quand les députés se sont... Le timing est questionnable là, sur la hausse de salaire des députés. Là. Je ne dis pas que ce n'était pas mérité, mais à la veille d'une négo, c'était peut-être pas le bon temps là, de se donner 30% puis dire aux employés, vous autres, ça va être 15-13%. Il n'y a pas aussi des erreurs stratégiques du gouvernement dans ça?
Ben, il y a des circonstances où on fait qu'à un moment donné, on peut pas tout mettre sur pause. Et je l'ai dit, malheureusement, la négociation doit vivre dans la vraie vie, dans l'univers réel. Puis, bon, on peut parler du timing, mais on peut parler aussi que ça fait 20 ans que c'est toujours le mauvais timing d'augmenter un député. Il y a jamais un bon timing. Ben, il y a jamais un bon timing. D'un autre côté, faut pas occulter non plus la négo précédente où les enseignants, les infirmières, je vais faire une moyenne, puis entre autres, les préposés aux bénéficiaires, judiciaires ont eu entre 16 et 30% en 2020. Et là, je remets à nouveau 12% sur la table. Mais depuis 2020, les infirmières vont avoir eu pas loin de 28% depuis 2020, alors que ça faisait 20 ans dans l'autre cas. Je veux dire, on peut jouer au jeu de la comparaison, Paul, pendant c'est pas mon intérêt de le faire, parce que pour moi, chaque poste est important.
Mais mon ami Lapierre disait la chose suivante. Quand tu m'as donné de l'argent, c'est fait, c'est cané. Oui. J'oublie ça, on est rendu ailleurs. Combien tu me donnes cette année?
Et voilà, je suis d'accord. Et quand j'ai donné de l'argent, c'est fait, c'est cané, on est rendu ailleurs, puis après ça, on me dit, ça va mal dans mes classes, puis je trouve ça dur.
Est-ce que la date butoir, c'est le 31 décembre?
Ben, mon objectif, il n'y a pas de date butoir, parce que je ne fonctionne pas à coup d'ultimatum, parce qu'on parle d'une discussion. Mon objectif, c'est d'avoir quelqu'un qui discute avec moi. Mon objectif, c'est d'avoir une contre-offre sérieuse des syndicats, et non pas des déclarations médiatiques à gauche puis à droite, puis des commentaires sur mes réseaux sociaux. Une vraie contre-offre documentée que je n'ai pas eue depuis l'automne 2022, où on avance vers moi. Et mon objectif, c'est d'essayer d'avoir sérieusement une possibilité de dégager une entente avec un ou plusieurs des syndicats d'ici la fin de l'année. C'est ça mon objectif.
Merci beaucoup d'être venu ce matin. Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcan.
Alors, vous venez d'entendre la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. Maintenant, avec nous, Magali Picard, qui est la présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Madame Picard, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Bon, ben, les questions sont assez simples. Je pense que vous allez les deviner. D'abord, est-ce que c'est vrai que vous n'avez pas changé un iota de vos propositions depuis l'automne dernier?
Les propositions salariales, c'est tout à fait vrai. Et je vous confirme qu'on ne les changera pas. Je peux pas concevoir que la ministre Lebel vous dit présentement, là, qu'elle attend une contre-offre. Qu'est-ce qu'on peut offrir de moins ou de plus à Mme Lebel? Écoutez, M. Arcan, les conditions d'emploi de notre monde sont les pires au Canada. Mme Lebel, je viens de l'entendre. Écoutez, c'est tellement difficile. Vous ne pouvez pas imaginer là, d'être sur l'autre ligne où je ne peux pas intervenir. Là. La pression est à son plus haut. Vous savez, elle nous dit, on a bonifié l'offre des infirmières, des préposés en 2020. Avec ce que j'offre maintenant, il y aurait une augmentation de 28 %. Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'on est encore 20 % de moins que toutes les autres provinces. En 2018, M. Arcand, on transférait l'hôpital Sainte-Anne-de-Bellevue des anciens combattants au provincial. Les PAB ont perdu 48 % de leur salaire du jour au lendemain. Ça, c'est drôle, on n'en parle pas. On parle des augmentations comme si c'était un cadeau. C'est pas un cadeau. C'est pour ça qu'on a un problème de rétention. On n'a pas de salaire compétitif.
Mais Mme Picard, il n'y a pas juste le salaire là, qui doit être compétitif.
Non.
Je veux dire, moi, ce que j'entends, là, puis c'est l'autre question qui a été amenée par Maître Lebel, c'est que, mettons, la paie, c'est une affaire, là. Mais de pouvoir ajouter des aides aux classes, ça a l'air que c'est pas votre priorité, que c'est pas...
C'est épouvantable, M. Arcand, écoutez-moi, là. Ce que je dis, et je le répète, c'est extrêmement important d'amener 4000 nouveaux postes d'aide à la classe. Comprenez-moi bien, c'est essentiel. Qui est insultant, c'est lorsque la ministre s'adresse à nos membres, à ses travailleuses et travailleurs, en leur disant « Écoutez pas vos syndicats, là. C'est pas 10,3% qu'on met sur la table. Ce qu'on met sur la table, c'est 14,8%. » Cette différence-là, M. Arcand, c'est pas en salaire. C'est que je comprends que l'État va embaucher 4000 personnes, ça va coûter de l'argent, et ça représente un pourcentage. Tout à fait d'accord. Mais venez pas changer le débat, venez pas le laisser croire aux travailleuses qu'on leur offre 15 %, c'est pas vrai. C'est comme si je vous disais, M. Arcand, écoutez,
j'ai
10 % d'augmentation, mais j'en conviens, tout à fait, puis c'est essentiel, puis on en a besoin. Mais c'est deux choses. Une chose, c'est de dire aux travailleuses, aux travailleurs, on vous offre 10,3 % sur 5 ans. C'est
mais au-delà de l'argent, là, on parle beaucoup d'argent.
Oui.
L'autre question soulevée aussi, là, c'est par exemple, on n'avance pas d'un pouce sur le fait que ce sont les enseignants. Je sais que c'est pas votre priorité, là,
c'est pas vrai, j'en ai.
Okay,
on a tous les enseignants.
Okay.
Juste ça, list of persons. Je pense que Mme Lebel en a beaucoup sur sa planche à dessin, mais
okay,
c'est pas vrai que j'ai pas d'enseignants.
Là. OK, alors, prenons les enseignants. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce qu'on en discute ou si les syndicats veulent rien savoir que les profs les plus récents, les nouveaux qui débarquent, ont les classes les plus toughs à gérer?
Monsieur Arcand, je vous l'ai dit en nombre déjà et je vous le répète. La ministre vient de faire un nouveau dépôt où elle laisse entendre qu'ils veulent parler de ça. Ça, là, c'est là, là. C'est depuis 15 octobre. Moi, j'entendais la ministre Lebel, j'entendais le ministre Drainville venir dire partout dans les médias, c'est pas normal que je sois pas capable d'assigner mes classes avant le mois de septembre. Et lorsque je parlais à nos gens aux tables de négociation, ça ne faisait pas partie des demandes de l'employeur. Je l'ai dénoncé. Et là, tout d'un coup, ben, on redépose le 15 et tout d'un coup, c'est
mais
là.
Madame Picard, c'est assez fabuleux. Là. Vous me dites, on en parle dans les médias, les ministres le disent, vous me le dites, oui. On n'en parle pas à la table. Mettez-vous à la place d'un enseignant, enseignante, certain, qui dit, Christy, est-ce que vous négociez pour moi ou bien pour vos égos, pour des combats politiques?
Monsieur Arcand, c'est pas parce qu'on ne veut pas en parler. On est encore aux priorités ministérielles depuis un an. On n'a pas commencé à parler de nos demandes à nous, de nos priorités, de nos solutions. On en a, mais on n'est pas rendu là. Et on fait face à un employeur, à des gens aux tables de négociation qui nous parlent de leurs priorités. Et là, il faudrait quasiment que je vous envoie des écrits parce qu'on en a, où on dit, bon, ben parlons-en de vos priorités. Alors ça veut... Expliquez-nous dans les faits, parce que c'est des grandes thématiques, là. C'est pas des demandes claires, on peut bien en mettre 5, mais si je vous dis on veut régler l'aide à la classe, ça veut dire combien de demandes, ça. Donc, faut toujours faire attention dans les messages très stratégiques du gouvernement. Donc, OK, on va en parler. Et là, on se fait dire, ben moi, j'ai pas le mandat à ce point-ci de vous décrire tout ce que ça veut, ce que ça représente. Monsieur Arcand, je sais que c'est un jeu de ping-pong, c'est eux les méchants, c'est nous les méchants. Moi, ce que je peux vous dire, là, c'est que nos demandes sont claires. On est prêt à parler, on le sait qu'on a besoin d'améliorer les trois réseaux, les services sociaux, la santé puis l'éducation. On est très ouvert à ça. C'est pas vrai que ça me préoccupe pas puis que c'est pas important puis c'est pas une priorité de l'aide à la classe. C'est terrible ce que nos jeunes vivent dans les écoles actuellement. C'est pas vrai. Tout ce qu'on essaie de dire, là, c'est faisons attention de pas volontairement amener le débat ailleurs. Parlons des vraies choses. Ben, c'est pas qu'on parle de salaire, mais ça reste important.
Non, mais...
6,3 en pleine inflation. C'est ridicule.
Non, mais ce que j'ai compris, c'est que c'est non négociable. Si c'est pas l'inflation...
C'est pas vrai.
Non, vous êtes négociable.
C'est non négociable, pas le salaire. Pas les demandes qu'on a mises.
Non, je vous parle du salaire. Là. Le salaire, l'augmentation autour de 20% sur 3 ans, là, c'est pas négociable, ça, pour vous.
Ben, écoutez, c'est pas négociable. C'est toujours un peu négociable, mais démontrez-nous un petit peu de bonne foi. Écoutez bien, là, si la ministre... Hier, on s'est tous déplacés à Québec. Je vous le dis, j'étais tellement en colère. J'avais des... Mes collègues m'ont dit, Magali, t'es un peu naïve. Ben non, moi, je veux croire que ça se peut. T'sais. Les messages sont forts envers le gouvernement. Là, 100 000 personnes dans les rues, un vote de grève à 95%. On a tout mis ce qu'il faut. Là. Les messages, c'est là, un après l'autre. Moi, je me disais, hier, là, je me disais, on va arriver proche. Là. On va se parler, il y a une grève annoncée le 6 novembre. Personne n'en veut. Là, on va vraiment là, amener ça plus près de la réalité.
On OK. Est-ce qu'on est rendu? Est-ce qu'on est rendu, là, visiblement, les tables, ça jase plus ou moins?
Ça commence. Ça commence là.
OK. Est-ce qu'on est rendu à l'étape d'une autre rencontre au sommet entre les leaders du Front commun, puis le premier ministre, puis la présidente du Conseil du Trésor? On est-tu rendu là ou s'il faut attendre à Noël?
Oh, j'espère. Écoutez, ça fait longtemps qu'on est rendu là de notre côté. Moi, je suis prête, là. Vous savez, là, M. Arcand, la négo, j'en fais depuis plus de 20 ans. Puis, je vous jure que cette fois-ci, tout le monde a été très clair. On pensait tellement que suite à la pandémie puis la prise de conscience de la population à quel point les services publics sont importants, on voulait une négo rapide et on n'a pas joué le jeu habituel d'arriver avec des demandes de 30-35% pour finir à 20. Et on l'a passé, ce message-là, au gouvernement en disant, écoutez, là, on veut une négociation rapide, notre monde est épuisé, ça va mal dans les réseaux, on est prêt à amener des solutions puis on est prêt à signer, être en mode transactionnel dès le départ. C'est pas ça qui se passe. Donc là, moi, si vous me dites une rencontre demain avec le premier ministre, Mme Lebel, aucun problème avec ça. Mais, c'est pas d'insulte, là. Je veux pas arriver là. À 10,3%, M. Arcand, sur 5 ans, je m'excuse, là. Regardez tout ce qui se signe ailleurs. Regardez ce qui vient d'être rejeté par la SQ. C'est pas vrai qu'on parle. C'est pas vrai qu'on fait face à un employeur qui veut régler.
Okay.
Ça, c'est clair.
OK. Deux choses en terminant. J'imagine que vous êtes consciente, comme vos collègues aussi, là, qu'au-delà de la négociation, un des enjeux, c'est la pénurie de main-d'œuvre en éducation, en santé. Oui. Quand j'entends le discours syndical, le discours patronal, les pubs syndicales, c'est rien pour attirer quelqu'un vers les réseaux de santé et les réseaux d'éducation publics.
C'est vrai.
Vous avez le tabarouette de job à faire pour nous convaincre, après la négociation, que c'est agréable de travailler dans une école puis que c'est agréable de travailler dans un hôpital.
Mais là, pour l'instant, on peut pas mentir, ça ne l'est pas. Ce qu'on fait, puis pourquoi on travaille aussi fort, M. Arcand, c'est pour que ça le redevienne, ça l'a déjà été. Donc, que le gouvernement redevienne un employeur de choix, ça, là, C'est ça sur quoi on se bat à tous les jours depuis le début de la négociation. Et moi, je m'engage aujourd'hui, M. Arcan, je peux pas le faire ailleurs, qui est plus important que chez vous, là. Négocions un contrat de travail respectable et moi, je vous promets de travailler, puis s'il faut, avec le gouvernement, pour redorer les emplois. Mais je le ferai pas dans la malhonnêteté, c'est pas le cas, mais je travaille et on travaille très fort pour que ça le redevienne. Et je vous jure que je serai au rendez-vous la journée où ça le sera.
En terminant, Québec va annoncer aujourd'hui une formation rapide dans l'industrie de la construction, entre autres pour les menuisiers, charpentiers. On s'inscrit en janvier, on est prêt en été.
Ben oui.
Mm-hmm. Trouvez-vous ça bon ou pas?
Non, pas du tout.
Non?
Puis vous savez, là, dans ma famille, moi, j'ai un frère qui vient de prendre sa retraite, qui était professeur comme frigoriste et très inquiet. C'est beau, la pénurie de main-d'œuvre, M. Arcan, mais c'est pas vrai qu'on peut prendre des gens sur la rue, leur donner une formation de 700 heures au lieu de 1800, les envoyer jouer dans l'électricité, dans les bâtisses et tout ça. C'est pas vrai. C'est une mauvaise planification. C'est du tape à l'œil. On est en train de pousser un problème plus grand. Oui, on a besoin d'attirer plus de gens. On a besoin d'avoir d'excellentes formations. On a besoin d'avoir un encadrement serré. Mais c'est pas vrai. On a beau me dire, ben, dans une mesure exceptionnelle, ça prend, dans un temps exceptionnel, ça prend des mesures exceptionnelles. S'il fallait faire ça en médecine, hein, dire à un cardiologue, au lieu d'une formation.
Ben, on le fait avec les préposés aux bénéficiaires, puis ça n'a pas été si mal.
C'est vrai. Ben, ils n'en ont pas attiré beaucoup, ils ne sont pas restés. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sentaient pas outillés. Ils ne se sentaient pas outillés, puis ça, on le fait, on a parlé.
Madame Picard, il y en a qui ne sont pas restés parce qu'ils se sont fait écœurer par des autres aussi, là, qui voyaient ça comme étant des employés qui arrivaient moins formés. Il y a eu disons qu'il y en a certains qui ont levé le nez sur la nouvelle mouture.
Moi, je peux vous dire qu'actuellement, dans notre réseau, il n'y a pas beaucoup de gens qui lèvent le nez à de l'aide et à des collègues qui viennent travailler avec eux. C'est pas le son de cloche que j'ai, M. Arcan.
OK. Fait que la formation rapide, vous n'êtes pas d'accord, donc?
J'y crois pas. Non, absolument pas. Oui. Écoutez, c'est comme si on disait, la formation actuelle était comme exagérée puis c'était pas essentiel. C'est vraiment un drôle de discours qu'on envoie.
Merci, Mme Picard. Bonne journée.
Merci. À vous.
Au revoir.
Aussi, au revoir.
Magali Picard est la présidente de la FTQ.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Et on sait que durant l'été, on a eu droit à ces événements extrêmes en termes de météo. Par exemple, les pluies du mois de juillet. L'UPA a commandé un sondage pour mesurer l'impact des dommages. On parle jusqu'à 60 % des espaces cultivés par les producteurs maraîchers qui ont été endommagés. Ce qui veut donc dire des pertes importantes. Catherine Lefebvre est la présidente de l'Association des maraîchers du Québec. Madame Lefebvre, bonjour.
Bonjour, M. Arcan. Merci de l'invitation.
Ben oui, c'est gentil d'être là. Peut-être d'abord nous parler en gros. Quand on parle de 60 % des espaces qui ont été endommagés, là, pour un producteur en moyenne, c'est une perte qui peut représenter quel pourcentage de sa production?
Tout dépendamment des cultures, là, tu sais, on a vu dans les laitues, là, que ça représentait, là, 40 à 50 %, là, des champs qui étaient décimés durant tout l'été, là. Donc, c'est sûr que ça dépend vraiment des cultures. Présentement, là, dans les légumes racines, là, on les rentre en entrepôt, mais on peut pas dire, là, le temps que la récolte va rester belle et bonne, là.
OK. Normalement, là, parce qu'il y a toujours des impondérables de météo puis saisonniers, là, les pertes représentent combien? Là, vous me dites 40 % peut-être, là, mais normalement, c'est combien par année?
Vous voulez dire en monétaire ou vous voulez dire en superficie?
Ben non. Ce que, par exemple, vous me dites, là, les champs ravagés, c'est 42 % de pertes de production. Vous me parlez des laitues, vous me parlez des légumes racines. Une saison normale, dans la mesure où ça existe, là, ce sont des pertes de combien?
Ça va être des pertes qui vont être... tout dépendamment de la condition climatique. T'sais, si on a une canicule de 5-6 jours, ben c'est sûr que le champ qui est prêt à récolter dans la laitue, par exemple, lui va être décimé, mais les champs subséquents vont être beaux. Cette année, ce qu'on vit avec les excès de pluie, c'est que c'est pas juste un champ, c'est plusieurs champs là qui s'accumulent, là, qui sont pas beaux, là. Donc, c'est de là, là, qu'on vit cette détresse-là cette année.
OK. Vous me parlez des légumes racines. Est-ce que je comprends qu'il y en a moins et que ceux qu'on arrive à sortir de terre sont moins gros, sont plus petits?
Non, pas nécessairement. Non. Là, c'est pas le calibre qui change, là. C'est vraiment la population. C'est vraiment le rendement, là, à la récolte qu'on n'a pas, là. Des semences qui ont été asphyxiées, là, dû à l'eau, des fruits qui n'ont pas été capables de se rendre à terme, mais ça ne veut pas nécessairement dire là, que le calibre est différent là, d'une année normale. C'est vraiment les rendements.
OK. quelle sorte d'impact cette météo là du mois de juillet, ces pluies importantes, peuvent avoir sur la production là que vous allez commencer à préparer pour l'an prochain?
Mais présentement, là, on passe nos commandes là, d'intrants, là, les semences, les engrais, tout ça. Là, on est déjà en train de regarder là, pour l'année 2024. Là, ce qui est la problématique qu'on vit présentement, c'est que les coffres sont vides. Donc, normalement, à ce temps-ci, là, on a eu les revenus de notre année, tout ça, puis on est prête à entamer 2024. Là, présentement, on n'est pas capable de penser comme ça. Là.
OK. Là, pour les gens qui sont pas familiers avec les programmes d'aide à l'agriculture, il n'y a pas des assurances? Il n'y a pas déjà des mécanismes qui font en sorte que vous êtes compensé?
La problématique qu'on vit cette année, c'est que les rendements sont de beaucoup diminués, mais on a quand même des récoltes. Ce que couvre l'assurance récolte, c'est des champs décimés à pratiquement 100 %. Là. Pour vous donner une image, là, il faut qu'il reste 3 laitues sur 10 de bonnes pour être capable de déclencher, de se faire indemniser un champ de laitue. Les légumes racines, eux, c'est en kilos. Donc, s'il reste un seuil de tant de kilos à l'acre, ben, on peut pas déclencher. Fait qu'il y a vraiment là la problématique cette année, c'est qu'on a des pertes de rendement substantielles, mais pas assez nécessairement pour se faire indemniser. Donc, les producteurs, on paye 40 % des sommes d'assurance récolte là dans le programme actuel, mais il y a pas beaucoup de producteurs là qui ont été capables de déclencher les assurances récolte, ou en tout cas pas significatif avec l'ampleur du désastre qu'on vit cette année.
Est-ce que vous avez eu des discussions avec le ministère de l'Agriculture? Est-ce qu'il y a des négos qui sont en cours? Comment ça se passe de ce côté-là?
Bien, il y a un comité là, qui a été mis en place là, suite à la conférence de presse qu'on a fait le 4 août. Nous, les groupes de producteurs, là, on s'attendait là, à des conclusions là, de ces comités-là. Par contre, là, on arrive au bout là, d'un impasse. Là, la semaine dernière, là, le prochain rendez-vous qui nous avait été offert, c'est en décembre. On est obligé de dire là, qu'on en voulait un plus tôt que ça là, pour arriver à avoir des conclusions. Il faut vraiment aider nos producteurs. Là. Le cri du cœur est là présentement au champ. Là, il faut vraiment qu'il y ait des décisions qui se prennent dans les prochains jours là, pour qu'on soit capable de partir 2024 du bon pied.
OK. Merci, Mme Lefebvre. Bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir. Catherine Lefebvre est présidente de l'Association des maraîchers du Québec. On a beaucoup parlé de réduflation, c'est-à-dire ce phénomène qui consiste à en mettre moins dans les sacs, dans les boîtes, et de vendre le produit au même prix. T'enlèves quelques grammes et le consommateur peut-être n'y voit que du feu. Et c'est une tendance qui est lourde, évidemment, avec l'augmentation du prix des matières premières. Et puis ce matin, je me mets à lire l'analyse de Sylvain Charlebois qui met le focus sur les bonbons d'Halloween. T'sais, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas un bien de première nécessité. C'est vrai. Mais c'est de voir un peu d'abord comment on en arrive à réduire le nombre et, je dirais, la grosseur des bonbons, même pour l'Halloween, puis ce que ça peut vouloir dire peut-être à moyen terme. Sylvain Charlebois, bonjour.
Bonjour.
Bon, comme ça, les bonbons d'Halloween ce soir, là, pour remplir une citrouille modèle conventionnel, ça va en prendre des petits sacs, là.
Ah oui, c'est ça. Parlons de choses sérieuses, les bonbons d'Halloween. J'imagine qu'il y a beaucoup de parents qui ont été magasinés ce week-end puis se sont aperçus que les bonbons ont rapetissé comme pas à peu près. Là. Le désavantage que les manufacturiers ont avec les bonbons d'Halloween, c'est que on les voit apparaître pour quelques semaines durant l'année, ils disparaissent, et quand ils reviennent, c'est là qu'on s'aperçoit que le chocolat a fondu, les roquettes ont fondu, les M&M, Reese's, c'est incroyable, Paul, là, cette année, sont vraiment petits, là. Vraiment. Alors, évidemment, pour remplir cette citrouille-là, il faut acheter plus de bonbons, effectivement.
OK. D'abord, on connaît le phénomène, là, mais pourquoi cette année, c'est encore plus petit?
Le gros facteur, c'est le sucre. Le sucre est très, très cher. Il y a un manque de rendement dans le secteur. En fait, le prix du sucre est à son point le plus élevé depuis 2011, donc 12 ans. Il y a aussi une grève, je ne sais pas, à Montréal, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais il y a l'usine de Rogers à Vancouver qui est en grève depuis quelques temps, depuis le 28 septembre. Et alors, il y a un manque de sucre sur le marché canadien en raison de ça. Il y a aussi le cacao. Le cacao est à un sommet, 44 ans. La dernière fois qu'on a vu le cacao au prix qu'on voit actuellement, c'est en 1979. Bien sûr, à l'Halloween, il n'y a pas nécessairement beaucoup de cacao dans le chocolat, puis c'est du chocolat au lait, mais on s'attend à des hausses pour Noël, Saint-Valentin, Pâques, etc., là.
OK, mais c'est ça, quand je parlais tantôt de l'effet à venir, là, on comprend l'Halloween, mais rapidement, on va arriver à la période des fêtes, après ça, la Saint-Valentin, après ça, Pâques. Il n'y a rien qui indique là un retour à des prix, disons, plus conventionnels.
Non, non, c'est on s'attend à ce que la réduction affecte les friandises pour les fêtes effectivement et pour le but de l'année 2024. Alors l'Halloween de cette année là, c'est une pratique à ce qui s'en vient là.
Il y a un auditeur qui a une bonne image. Si c'est vrai que les bonbons sont plus petits, que les chocolats sont plus petits, peut-être que la citrouille qu'on va utiliser demain soir, elle-même fait l'objet de réduflation. Fait que peut-être qu'elle est plus petite que l'an passé.
Oui, c'est ça. Mais écoutez, Paul, la bonne nouvelle, c'est que les enfants vont devoir faire plus d'exercices pour obtenir autant de bonbons. Alors, il y a peut-être une bonne nouvelle là-dedans.
Sylvain Charlebois, merci beaucoup. Bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir. Sylvain Charlebois, qui est le directeur scientifique du laboratoire des sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Remarquez, vous allez me dire des bonbons, là, je suis bien d'accord, là. C'est comme des restaurateurs qui doivent rembourser leurs prêts au gouvernement au mois de janvier, là, puis c'est 60 000, ben, si tu rembourses le 40 000, t'as un pardon de 20 000. Bon, il y en a qui trouvent ça dur de ce temps-là. Puis parmi les stratégies, c'est d'avoir un menu moins développé, c'est d'avoir des portions plus petites, puis peut-être te charger plus cher. Puis là, il y a des gens qui me disent, ouais, mais c'est pas grave, les gens vont manger moins. C'est pas ça de temps l'enjeu, là, c'est une affaire. Mais la réalité, c'est que tu dis, OK, mais ça commence à être cher. Il y a beaucoup de restaurateurs qui l'absorbent actuellement. Baisse de fréquentation, des menus qui sont peut-être plus négociés dans le sens où les gens arrivent avec un budget un peu plus arrêté, font plus attention. Et l'industrie, là, on va entrer dans la période de Noël, ça marche. Mais c'est sûr que le début de l'année prochaine, pour beaucoup de restaurateurs, ça risque d'être assez complexe. Parlons du dossier du transport en commun. Alors, on le sait, la ministre Geneviève Guilbeault a annoncé dans un premier temps son intention d'éponger 20 % du déficit des sociétés de transport en commun. Et elle se dit ouverte à une certaine négociation. Et tout de suite, les différentes agences de transport en commun on sortit la menace. On peut penser à la STM de réduire, par exemple, l'offre de services, fermer le métro à 23 heures, moins de lignes d'autobus, bref, affecter directement le service à la clientèle. La semaine dernière, on en parlait avec des maires des couronnes montréalaises qui font face à des augmentations de taxes potentielles. Le maire de Laval est avec nous, Stéphane Boyer. Monsieur Boyer, bonjour.
Bon matin, M. Arcan.
D'abord, pour Laval, là, ça peut vouloir dire quoi comme manque à gagner?
Comme manque à gagner, ça serait en fait des contributions supplémentaires de la ville de 30 %. Donc, à l'heure actuelle, c'est environ 100 millions de dollars par année qu'on met en transport commun. Il faudrait hausser ça à 130 millions dès 2024, donc dès mon budget que je dépose dans quelques semaines.
OK. Ça veut dire augmenter les taxes.
En effet. Donc, ça serait quand même un montant assez substantiel. On comprendra que notre budget total pour la ville augmente environ 30 millions par année, mais ça, c'est pour tous les services de la municipalité. Donc, ça représente un écart qui est considérable pour les municipalités.
Bon, il y a eu ce sommet vendredi, il y a eu des discussions avec la ministre Guilbeault. Vous le dites, là, votre budget s'en vient. Là, est-ce que vous avez senti une ouverture, une forme d'espoir que le montant soit bonifié? Moi, ce que je comprends de la ministre, c'est qu'elle dit « faites donc vos devoirs puis faites un peu de ménage dans vos dépenses ».
Oui. Ben, je pense que c'est important de prendre un pas de recul pour comprendre la situation. À l'origine, le transport en commun, là, le tiers est financé par la vente des billets. Et le deux tiers restant est financé à moitié par les villes, à moitié par le gouvernement du Québec. Là, durant la pandémie, il y a un gros trou qui s'est creusé à cause de l'inflation, à cause du fait qu'il y a plus de télétravail, donc moins de ventes de billets d'autobus, à cause qu'il y a des nouveaux modes qui s'en viennent aussi comme le REM. Donc, ça fait quand même un bon deux ans qu'on voit le déficit augmenter d'année en année. Et on a entrepris, entre autres, des chantiers. Donc, il y a eu déjà des coupures de service dans la dernière année. Les métros passent moins souvent. On a enlevé des autobus sur les heures de pointe. Donc, il y a du travail qui est fait en ce moment pour rationaliser les dépenses. Mais on sait que 2024, c'est là que ça va frapper dur. C'est 500 millions environ le déficit. Et nous, les villes, on a rencontré le gouvernement du Québec au printemps dernier pour dire, regardez, on veut travailler ça ensemble, on veut trouver des solutions conjointes parce que c'est une responsabilité conjointe, mais on n'a pas eu de suite faite à cette demande-là.
OK.
La ministre nous a dit, je vous reviens au mois d'août avec un plan. Finalement, c'est environ deux semaines qu'elle nous a déposé une proposition où Québec serait là seulement à hauteur de 20 %.
OK. Est-ce que vous avez plus d'employés à la Société de transport de Laval qu'avant la pandémie?
Le nombre exact, je ne connais pas. Nous, à Laval, on a essayé de maintenir le plus possible le service. On a réduit les passages, entre autres, sur les heures de pointe. Par contre, on a plus d'achalandage qu'avant la pandémie dans nos parcs industriels ou les week-ends. Donc, il y a des lignes qui ont été bonifiées, il y en a d'autres qui ont été diminuées. Mais dans l'ensemble, je vous dirais que c'est plusieurs millions de coupures qui ont été effectuées déjà depuis l'année dernière.
OK. Ce qui est difficile à se mettre dans la tête, là, puis je parle pas juste de vous, là, c'est dans d'autres sociétés de transport où il y a une baisse importante d'usagers, puis en même temps une augmentation du nombre d'employés, ce qui est le cas de la Société de transport de Montréal. Et le niveau d'encadrement, puis là, je parle pas des chauffeurs puis opérateurs de métro, je parle des gens qui sont ailleurs, qui ont d'autres types de fonctions. On se demande jusqu'à quel point la productivité est au rendez-vous, puis jusqu'à quel point on en a pour notre argent. L'autre aspect, ce sont les structures régionales. Je le sais que c'est Québec qui a créé ça, là, mais me semble-t-il qu'il y a bien des pertes de temps, beaucoup de pertes de temps, puis quand on a vu ces structures-là changer, être modifiées au fil du temps, le contribuable, il pense qu'on gaspille beaucoup.
Oui. Moi, j'ai envie de vous dire, il faut faire l'exercice de se remettre en question. Ça, je suis le premier à défendre ça. D'ailleurs, il y a déjà des chantiers en ce moment pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les coûts. Est-ce qu'on peut, par exemple, plutôt que chacune des organismes de transport en commun, la STM, la STL, la RTL, plutôt que d'avoir chacun, par exemple, leur centre de service à la clientèle, on peut-il en avoir juste un qui couvrirait tout le Grand Montréal? Donc, on regarde, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être revisitées? Donc, moi, je suis d'avis qu'on doit se poser des questions sérieuses. Il faut réduire la facture du transport en commun. Mais je crois que la raison pour laquelle il y a une réaction aussi grande en ce moment dans le milieu, c'est parce que le déficit est de 500 millions. Donc, on ne pourra pas, c'est pas réaliste de dire serrez-vous la ceinture, puis on va combler le déficit. C'est-à-dire qu'on va peut-être trouver pour quelques dizaines de millions d'économies, mais jamais de l'ordre de 500 millions sans penser faire des coupures qui sont importantes. Donc, il faut se reposer des questions. En ce moment, les organismes de services de transport commun le font, mais on n'a pas le choix, les villes et le gouvernement du Québec ensemble, on doit trouver une solution pour que ça soit pérenne dans le temps, parce qu'en ce moment, c'est vraiment, on est sur le bord de l'abysse. Là. Le transport en commun, si on respecte la proposition déposée par Québec, on s'en va vers une réduction de l'offre de service, moins d'autobus, moins de métro, ça veut dire plus de personnes sur les routes à terme. Donc, c'est vraiment, c'est nos objectifs, là, en fait, les objectifs de Québec, même en termes de réduction des GES, qui vont être mis à risque.
Mais est-ce que vous êtes... Oui, ça, je comprends. Mais est-ce que vous êtes plus réduction de services ou augmentation de taxes?
Ben, c'est le choix pas facile qu'on doit se poser. Puis peut-être que ce sera une combinaison des deux. Mais je crois qu'on doit pouvoir réussir à s'asseoir avec Québec puis à se parler pour trouver des solutions ensemble. Puis c'est ça qui est difficile en ce moment. De nous annoncer quelque chose quelques semaines avant le dépôt du budget où les villes prendraient 80% de la facture. Pour moi, c'est pas réaliste comme solution.
OK. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Boyer. Bonne journée.
Merci à vous.
Stéphane Boyer est le maire de Laval.
C'est 23.